Albert Sim, le bouquet de lilas. Comme le fiacre chargé d'une valise et d'une malle venait de tourner l'angle de la rue de Rivoli et du boulevard Sébastopol, le voyageur, un jeune homme à la mine dolente et maladive, se pencha et ordonna au cocher de s'arrêter. Puis il ouvrit la portière et se dirigea en cédant sa canne vers un luxueux magasin de fleurs situé vis-à-vis. La patronne de l'établissement, Madame Guillaume, qui trônait dans son comptoir, accueillit le visiteur par un salut plein de courtoisie, un sourire des plus gracieux et des plus engageants. À n'en pas douter, le jeune homme était un client habituel de la maison. « Je m'absente pour quelque temps, madame, dit-il. Auriez-vous l'obligeance de continuer à envoyer chaque dimanche matin un bouquet de lilas blanc à l'adresse de Mademoiselle Dervillers ?»« Mais parfaitement, monsieur. Soyez sans crainte. Est-ce que votre absence sera longue? Vous semblez souffrant. » »« Un peu de fièvre, voilà tout. Mais je ne puis arriver à me débarrasser de ce malaise. Aussi, je vais me faire soigner chez moi. L'air natal me remettra. » « Remède souverain, ajouta complaisamment la malade marchande, qui ne manqua pas de terminer par le soin de rigueur. « Allons, à bientôt, monsieur, guérissez-vous vite !» Le jeune homme la remercia, prit congé d'elle et regagna sa voiture qui le conduisit à la gare de l'Est. Séverin Évrard avait 23 ans. Après avoir achevé ses classes au collège de Verdun, sur Meuse, sa ville natale, il avait travaillé quelque temps dans le bureau de son père, l'architecte le plus en renom de l'arrondissement. Puis on avait jugé nécessaire de l'envoyer à Paris pour y étudier les grandes constructions et se perfectionner. Depuis un an, il était attaché en qualité de dessinateur et vérificateur au bureau de M. Aubryon, architecte expert, quand ce malaise, cette fièvre l'avait saisi et décidé à aller prendre chez lui quelques jours de repos. Durant cette année, il ne s'était pas borné à accroître ses connaissances dans les qualités et la mise en œuvre de matériaux. Il avait inspiré à l'une de ses parentes, à la fille d'un de ses arrière-cousins, une sympathie qui s'était promptement transformée en affection, en une réelle passion. M. Dervillers, le père de la jeune fille, avait été d'autant plus surpris de ce changement qu'Antoinette, élevée chez les Oblates de la rue de Vaugirard, avait depuis sa première communion constamment témoigné le désir, l'intention formelle de se faire religieuse. Comme il était veuf et n'avait pas d'autre enfant, il avait vu avec peine cette résolution et s'était efforcé de la combattre. Mais la victoire était réservée à Séverin. Maintes fois, Antoinette avait ouï parler de ses parents de Verdun, de son petit cousin Séverin, Évrard. Il y avait 2 mois à peine qu'il habitait Paris, lorsqu'elle sortit de pension et eut occasion de le voir. Et M. Dervillers, ancien bureaucrate de ministère, chef de division en retraite, avait très cordialement accueilli le jeune homme. « Cousin, nous nous mettons tous les jours à table à 7 heures. Quand le cœur vous en dira ?» Séverin avait de plus en plus profité de cette invitation. Car de plus en plus, M. Dervillers se montrait affable, affectueux envers lui. De plus en plus, le petit cousin se plaisait dans cet intérieur, ce paisible et confortable appartement de l'avenue Victoria. Loin de sourire des inexpériences du provincial, de le prendre en pitié, lui et sa simplicité de mise de ton, voire ses gaucheries, Antoinette démêlait là des indices de ses qualités morales, de sa franchise, sa loyauté, du sérieux et de la sûreté de son caractère. Avec son air doux, presque timide, ses yeux graves et songeurs, son profil maigre au méplat bien accentué, empreint de finesse et de distinction, il avait charmé, s'était insinué dans son cœur. Heureux de voir sa fille lui revenir, M. Dervillers avait de son mieux tâché d'encourager cette passion. Et quand le cousin Évrard fit le voyage de Verdun, tout exprès, afin de solliciter pour son fils la main d'Antoinette, il fut reçu à bras ouverts. « Oh, c'est Antoinette à vous répondre, cousin. Moi, je ne suis pas de ces pères barbares. Antoinette rougit jusqu'au blanc des yeux, en guise de réponse, et baissa la tête. Allô, qui ne dit vos gros sang? Puisque la chose est décidée, il n'y a pas de raison pour la retarder, répondit M. d'Hervilliers, qui avait hâte de voir sa fille définitivement engagée dans les lieux terrestres du mariage. Le plus tôt sera le mieux. Nous sommes malheureusement en carême, dans un mois, tout de suite après Pâques. L'époque vous convient-elle? Mais parfaitement, mon cher cousin, c'est cela. 10 jours après le départ de Séverin, un dimanche matin, un fiacre s'arrêtait devant le magasin de fleurs de Madame Guillaume. Une valise placée à côté du cocher indiquait que c'était encore à une gare que le véhicule se rendait. Avant d'ouvrir la portière, M. d'Hervilliers se tourna vers Antoinette, qui était en grand deuil, comme lui. « Tu ferais mieux de rentrer, chère petite. C'est pas raisonnable. Père, je t'en prie, que je te conduis jusqu'au chemin de fer. » Ils pénétrèrent dans le magasin et M. d'Hervilliers demanda une botte de rose blanche ou de lilas blanc. Une fillette, au minois chiffonné, aux cheveux blonds en broussailles, lui présenta un bouquet de lilas entouré de sa haute collerette de papier blanc et qui attendait là, tout préparé, sur un comptoir. « Ah, pas celui-là, mademoiselle Ernestine !» intervint madame Guillaume. « C'est celui de mademoiselle d'Herville. Le garçon va le porter. Excusez-moi, monsieur, ce bouquet est vendu. » La fillette alla chercher dans le fond du magasin un autre bouquet de même sorte, et pendant qu'elle s'occupait de l'habiller de papier blanc, Antoinette s'approcha de la caisse. « Vous n'envoyez rien, mademoiselle d'Hervilliers. C'est moi-même, madame. Plus rien, bégaya-t-elle. Nous prendrons ce bouquet avec l'autre, pour sa tombe. » 10 ans plus tard, à la mort de M. d'Hervilliers, Antoinette rentrait, pour n'en plus sortir, chez les oblates de la rue de Vaugirard.